intervention de René Scherrer sur Deleuze, et nous parlerons plus particulièrement ce soir du désir. Alors, à un moment donné, nous projetterons donc l'extrait du désir de l'abécédaire. Voilà, et ensuite il y aura un échange avec la salle. Bonne soirée.
Oui, on passera, comme la dernière fois, si ça ne vous fait rien, cet abécédaire. Enfin, j'avais proposé à Annie Agopian de le faire pour faire une introduction plus percutante, de le faire avant, puis je me suis dit qu'en définitive, après avoir entendu Deleuze, je n'aurais plus qu'à partir, donc il vaut mieux que je commence, et ensuite on entendra Deleuze, comme ça on sera bien obligé de m'écouter avant de l'entendre. Je voudrais, pour ne pas déconcerter les personnes qui ont l'amabilité d'être ici, et étant donné que ce n'est pas du tout un cadre de cours universitaire, mais une sorte de causerie que l'on pourrait appeler selon le qualificatif de cette maison populaire, ou qui se voudrait populaire, je voudrais introduire par une proposition qui m'a, quand je l'ai lue, beaucoup plu et que j'ai faite mienne. Elle n'est pas de Gilles Deleuze, on aurait pu en trouver chez Deleuze ainsi, du même ordre. Elle est de Félix Guattari. Elle titre d'ailleurs un petit opuscule qui est composé avec une interview qui avait eu lieu il y a maintenant plus de 10 ans, puisqu'il est mort en 92, et c'était un peu avant sa mort, et c'était la philosophie est essentielle à l'existence. C'est une formule qui m'a beaucoup plu, que j'avais retranscrit pour mon propre compte, en une proposition un peu plus encore simpliste. C'était philosopher est indispensable à la vie. Je dis ça parce que tout à l'heure quelqu'un me demandait pourquoi vous faites cela dans une maison appelée maison populaire. Mais j'ai dit précisément parce que même des personnes qui n'ont pas pour profession particulière la philosophie, ou qui ne sont pas en université, peuvent comprendre la nécessité, l'exigence d'une réflexion philosophique, et Félix développait cela autour essentiellement de la nécessité de sortir d'une part des idées reçues, des propos courants, des affirmations péremptoires et consensuels, des savoirs essentiellement, c'était peut-être son orientation, surtout des savoirs techniques, ne pas se laisser impressionner par les spécialistes de ces savoirs, etc. Donc c'était là philosopher, mettre en relation, étendre les choses. Nous l'avons vu la dernière fois, je renoue avec ce qui avait été abordé autour de ce problème de l'animal, du devenir animal, étendre les choses, les composer, les faire glisser et les composer sur un plan d'immanence, ce plan d'immanence où le seul principe est ce que Deleuze appelle, en reprenant des expressions de philosophie traditionnelle, le principe ontologique, c'est-à-dire concernant essentiellement l'être, ce que c'est qu'être, de l'univocité de l'être. C'est au nom de ce titre de l'univocité de l'être, c'est-à-dire que tout s'équivaut de ce point de vue être. Il n'y a pas quelque chose qui est un être transcendant comme Dieu, ou des choses qui seraient transcendantes comme la conscience, la pensée par rapport à la matière, par rapport au corps, ou l'homme par rapport aux animaux. Il y a des êtres dans leur diversité, et étant les uns avec les autres, dans des relations, des agencements multiples. Et c'était un peu cela qui était, à mon sens, la leçon que Deleuze nous donnait à travers cette réflexion sur l'animal, en promouvant, si l'on peut dire, l'animal au même rang que l'homme, puisqu'il lui attribue un monde. Je l'avais dit la dernière fois, je le rappelle encore aujourd'hui, dans certaines philosophies, je pense à la philosophie contemporaine de Heidegger, seul l'homme est capable d'avoir un monde. L'homme a cette différence qui en crée un être, en fait de lui un être de transcendance par rapport à l'animal. Tandis que l'animal est en quelque sorte au ras des choses, il n'a qu'un territoire. Et quand on lit Deleuze, on est frappé de ceci. Quand on lit et l'entend, parce que la dernière fois, vous l'avez entendu à propos de cet animal particulièrement désagréable, mais auquel il s'est intéressé d'une façon peut-être un peu provocatrice, mais peut-être pas non plus, qui était la tique. Or, il attribue à cette tique tout simplement un monde simple, beaucoup plus simple sans doute que celui de l'homme, qui n'a que quelques coordonnées, mais qui est toutefois un monde. Et d'autre part, si on lit l'Anti-Œdipe, qui est le grand livre où Deleuze et Guattari ont exposé le désir, on voit que il attribue à l'homme et au désir un territoire. Donc ce mot de territoire qui était réservé à l'animal dans le langage et la pensée courante est attribué à l'homme, alors que le mot de monde est attribué à l'animal. Ça ne veut pas dire qu'il n'utilisera pas le terme de monde à l'égard de l'homme, et qu'il n'utilisera pas non plus, ni que l'on ne puisse pas utiliser le terme de territoire par rapport à l'animal. Mais cela prouve tout simplement qu'il n'y a pas de transcendance de l'un par rapport à l'autre. Il y a l'univocité de l'être, il y a le même plan, le même déroulement de ce plan d'immanence où des agencements sont possibles. Et parmi ces agencements, on avait vu la dernière fois qu'il y avait ce fameux devenir animal qui fait que non seulement il existe des comportements tels, par exemple, que les sorcelleries, les envoûtements, mais en même temps qu'il existe des écritures, qu'il existe des livres qui font intervenir les animaux, qui font intervenir, comme par exemple Moby Dick de Melville, qui fait intervenir ce cachalot fantastique, ou qui font intervenir métamorphoses, comme la métamorphose de Kafka, ou qui font intervenir les rats, ou etc. Par conséquent, il y a quelque chose qui, dans l'acte d'écriture, est évidemment un déplacement du sang dans lequel l'homme se tient. Il y a quelque chose qui le fait être en prise et en agencement direct avec des choses qui ne sont, ou avec des êtres qui ne sont pas lui, et qui devient, au sens propre, il passe en eux. Pour les écrire, pour les comprendre, ils passent en eux. Et j'avais dit que, à ce moment-là, ces devenirs ne doivent pas être compris de la façon d'une à la façon d'une transformation rigoureusement littérale, comme si c'était un véritable devenir de l'homme en animal, mais au niveau infinitésimal, au niveau que Deleuze et Guattari appellent moléculaire. Et il faisait là une différence essentielle entre cet état des grandes masses, des grands ensembles, des grandes stratifications du monde, stratifications perceptives, où l'essentiel de la vie courante se place, et d'autre part ces mouvements imperceptibles, mais tout aussi importants, sinon plus, et qui sont ce qu'il appelle les mouvements et les connexions moléculaires, à la ressemblance d'ailleurs, du monde matériel, du monde physique, qui également présente des objets bien découpés sous une forme molaire, mais dont l'analyse nous prouve qu'ils sont constitués de molécules, de particules, et que c'est ça qui est la réalité des choses, et non pas ces formes que nous avons devant les yeux. Je dis cela d'une façon un peu dispersée, mais cela nous introduit à ce problème essentiel dans la philosophie de Deleuze et de Félix Guattari. Je dirais simplement Deleuze aujourd'hui, ou tout au moins la plupart du temps, puisque ces séances sont consacrées à Deleuze. Mais dans ce cas-là, il y a peut-être une collaboration, une compénétration, un agencement, puisque le mot a été prononcé, tout à fait particulier entre Deleuze et Guattari, pour des raisons différentes. Premièrement, parce que il est incontestable que cet intérêt essentiel porté au désir qui a donné en 1972 ce grand livre, l'Anti-Œdipe, est essentiellement dû à la rencontre de Deleuze avec Félix Guattari. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas des idées deleuziennes sur le désir et qu'il n'y ait pas des idées deleuziennes fondamentales aussi qui peuvent être écrites avant l'Anti-Œdipe, mais essentiellement c'est l'Anti-Œdipe autour de la critique de la conception du désir dans la psychanalyse qui a rendu célèbre, populaire, peut-être la philosophie de Deleuze, a rendu célèbre cette collaboration, ainsi que l'attaque qui a la critique très forte qui a été faite de la conception psychanalytique du désir. Donc, la rencontre avec Félix Guattari ici est une rencontre assez fondamentale, d'autant plus qu'un des points les plus importants, les plus curieux, celui qui a à la fois attiré l'attention dans l'Anti-Œdipe, qui a fait solliciter des explications, c'est cette formule que Deleuze et Guattari ont employé relativement au désir, extériorisant en quelque sorte cette notion de désir qui est apparemment une notion tout à fait intime, souvent quasiment inexprimable, et qui est un petit peu, qui compose un peu l'impalpable de chacun d'entre nous, lorsque l'on dit je désire, sous la formule lapidaire et incontestablement provocante, nous sommes des machines désirantes. Et très curieusement, comme je mets en relation ce problème de l'animal, ce problème de l'homme et ce problème du désir, on voit qu'au fond, il y a quelque chose de très étrange. C'est-à-dire que l'homme est dépossédé du côté de l'animal de sa priorité et du côté du désir, il est dépossédé, on pourrait presque dire, de sa spiritualité, si l'on entend que le désir est quelque chose de spirituel, précisément parce que le désir est considéré comme étant une machine ou de l'ordre des machines. Je vais essayer simplement aujourd'hui, parce que je n'ai pas l'intention de faire un cours, et je ne pourrai pas le faire, sur ce problème complexe épineux, je vais essayer simplement de mettre un petit peu d'ordre dans ces quelques notions que je viens de présenter d'une façon séparée, c'est-à-dire il va s'agir du désir, il s'agit du désir dans sa relation à la psychanalyse, il s'agit du désir dans sa relation à la machine, et il s'agit aussi d'ailleurs du désir dans sa relation avec l'histoire ou avec la société dans son ensemble. Le sous-titre de l'anti-Œdipe, c'est capitalisme et schizophrénie. C'est-à-dire que dans un livre où il s'agit du désir, on voit que ce qui est mis au premier plan, c'est quelque chose qui est une mise en relation d'un état social, d'un état de production sociale, d'un état économique, le capitalisme, avec une maladie mentale, la schizophrénie. Et c'est aussi un des points fondamentaux de la théorie du désir chez Félix et chez Deleuze, c'est que, contrairement à la psychanalyse, le désir ne va pas être envisagé dans son individualité, dans son intimité, dans son intériorité, comme étant une spécificité du sujet individuel, ni le désir, ni le traitement des pathologies du désir. Le désir, immédiatement, est extériorisé par rapport à l'individu. Il est extériorisé par rapport au sentiment ou à la pensée individuelle. Il est mis en relation immédiate avec quelque chose qui est la production sociale, qui est l'ordre collectif. Donc il y a autour de lui un déplacement complet qui va être opéré tout en rejoignant quelque chose qui met en évidence des propriétés cachées, des propriétés secrètes, mais dont tout le monde a profondément conscience, c'est que nos désirs, l'ordre de nos désirs, la façon dont nos désirs procèdent et nous arrivent, est en dépendance complète avec l'ordre social des choses, avec le mode de production sociale. Le désir n'est pas quelque chose qui est séparé, qui est propre à l'individu, qui est intérieur au sujet. Le désir est quelque chose qui est répandu autour de nous, qui est du même ordre que la production industrielle, du même ordre que le machinisme social. La machine désirante et les machines industrielles sont également du même ordre. Nous rencontrons ici quelque chose qui est de la même nature que l'extension de l'ensemble des êtres sur un plan d'immanence, c'est-à-dire que pour parler du désir, nous n'avons pas essentiellement et d'abord à regarder en nous, mais le désir est répandu autour de nous, c'est autour de nous qu'il existe, et nous fonctionnons en relation, en résonance avec ce qui nous entoure. Le désir machinique qui nous caractérise est en relation avec la société du machinisme industriel, et c'est là, à ce niveau-là, que nous devons comprendre comment il fonctionne, quels sont ses agencements, quelles sont ses dissociations, ses ruptures de ce qu'on appelle la personnalité qui se produisent, et comment ce que Deleuze et Guattari autour du désir appellent ce grand mouvement, ce grand flux désirant, est d'une part représenté dans le capitalisme industriel et d'autre part va se représenter du point de vue individuel dans cette dissociation de l'individu, dans cette faille, cette fêlure constante du sujet qui est la schizophrénie ou les états préparant, avoisinant la schizophrénie, cette dissociation de conscience qui, à des titres divers, atteint son paroxysme dans la psychose et dans le délire du schizophrène, mais en même temps se rencontre dans des schizophrénies internes dont chacun peut avoir conscience et que chacun peut éprouver. Voilà un petit peu la mise en place de ces différents éléments autour du désir tel qu'il se présente dans l'anti-Œdipe, que l'on peut résumer sous une formule que je recueille dans ce texte. Le désir n'est pas dans le sujet. Le désir n'est pas dans le sujet, mais c'est la machine qui est dans le désir. Et par ce mot, c'est là que nous avons justement l'expression même de cette formule frappante, la machine désirante. La machine est dans le désir. Non seulement la machine telle que on pourrait la penser analogiquement avec des machines extérieures, mais une machine qui est incontestablement, au sens propre, la mécanisation, la machination de l'individu désirant en relation avec les grandes machines, soit machines industrielles, soit machines étatiques, soit machines sociales, de différentes formes que le capitalisme industriel a suscité. Du point de vue strictement, du point de vue historique d'ailleurs, si l'on veut chercher une genèse, un historique de la formation de cette pensée autour du désir chez Félix et chez Deleuze, il est certain que les premières réflexions autour de cette importance de la machine qui va devenir la machine désirante et qui est due à Félix Guattari, ont été suscitées par des réflexions sur le machinisme industriel. Deleuze, Guattari relèvent l'importance à cette époque d'une étude qui avait été faite par le sociologue George Friedman, les problèmes humains du machinisme industriel. C'est là peut-être que se greffe cette réflexion et ce retournement, ce déplacement fondamental de la perspective psychanalytique autour du désir. C'est à partir de ces problèmes humains du machinisme industriel, de cette dissociation, de cette pénétration profonde de l'être individuel par les transformations industrielles qui se sont produites autour de lui, que l'insuffisance d'une cure individuelle du désir, d'un repliement individuel du désir et de sa familiarisation, c'est-à-dire de sa concentration autour des simples désirs familiaux, est apparu Félix Guattari, qui a considéré comme intenable des positions qui isolaient le sujet de ces contextes sociaux, du contexte du travail, du contexte des événements historiques, sociaux, économiques qui pesaient sur chaque individu dans le monde capitaliste contemporain, et qu'il a été, ainsi que Deleuze, éveillé à la nécessité de penser d'une façon tout à fait différente ces notions de désir liées à l'inconscient psychanalytique et regroupées, rabattues autour de la simple cellule familiale. pour me résumer et dégager une idée directrice de ce que je viens de dire, il y a dans la conception du désir telle que la conçoit l'anti-Œdipe, qui ensuite sera développé sous différentes formes, dans mille plateaux, reprises de différentes manières, mais qui se trouve dans l'anti-Œdipe sa base, il y a bien cette idée de l'insuffisance de ce qu'ils appellent le rabattement familial, le rabattement œdipien dans la psychanalyse. Le désir fuse de toutes parts, il se lie de toutes parts, soit dans les fantasmes, soit dans ce que l'on peut appeler l'ordinaire du désir. Il se lie à des objets extérieurs, il se lie à des objets historiques, il se lie à l'ensemble du monde ambiant et déborde incontestablement cette cellule familiale à l'intérieur de laquelle on désirerait l'enfermer de façon à constituer un sujet, et selon le langage acquis par la psychanalyse, structurer le sujet autour de ces instances paternelles, maternelles que constitue l'Œdipe. La conception machinique du désir qui le relie qui relie ces constructions ou ces petites machines individuelles aux grandes machines sociales, sous quelque forme qu'elles se présentent, c'est quelque chose qui répond justement à ces notions que la psychanalyse a mises en avant, c'est-à-dire celle de structuration et celle de dipianisation, c'est-à-dire le fait de référer simplement le désir à des instances personnelles. La notion de machine s'oppose à celle de personne, en particulier des personnes parentales, et offre une réplique à cette structure essentielle, cette structure de base, qui est celle de l'inconscient freudien et qui est représenté par l'Œdipe. Ça, c'est un premier point essentiel. Je lirai tout à l'heure, pour condenser, un tout petit texte de Deleuze qui nous permettra de fixer, si je l'ai noté ici, de fixer ces idées autour des notions que Deleuze à utiliser pour préciser ce qu'est pour lui l'essentiel du désir. Mais le second point, c'est que lorsque l'on parle de désir, dans le cadre psychanalytique ou dans le langage courant, on réfère généralement le désir à un manque. Le désir, c'est ce qui fait toujours défaut, c'est ce qui ne peut être comblé, c'est ce qui renvoie à un prétendu objet perdu, objet premier, objet perdu, dans le langage psychanalytique. À cette définition du désir comme un manque, Deleuze et Guattari répondent par la définition du désir comme production. C'est aussi un point tout à fait essentiel de leur doctrine. Le désir est producteur de la même façon qu'une machine est productrice. Il produit précisément parce que il n'est pas intérieur à un individu. Le désir n'est pas à l'intérieur du sujet. le désir est une mise en relation. Le désir est toujours lié, c'est à un point essentiel de la thèse soutenue par Deleuze et Guattari. Le désir est toujours lié par un agencement. Vous verrez dans le passage de l'abécédaire que c'est cela sur quoi Deleuze insiste, peut-être l'avez-vous déjà en mémoire, si vous l'avez entendu, il dit toujours le désir et son agencement. Le désir, sans doute, peut être énoncé d'une façon générale, nous avons des désirs, il y a du désir, j'ai le désir d'eux, mais il porte toujours sur des choses particulières, il porte toujours sur une certaine forme de liaison à un être, à une chose, à un événement, etc. Maintenant, il y a des agencements qui sont réussis, il y a des agencements qui sont essentiellement productifs, il y en a d'autres qui échouent, c'est peut-être là ce qui fait dire que le désir est en relation avec un manque et qui interdit de voir de quelle façon le désir est productif. Or, ce n'est pas la partie de manque qui intéresse Deleuze et les auteurs de l'anti-Œdipe et les développements auxquels ils se livrent sur le désir, c'est au contraire cette production du désir qui se trouve à la base même du fonctionnement social, qui se trouve à la base de toutes les organisations sociales, qui se trouve à la base des formations étatiques, des différentes formations, même perverties, même déformées. Le désir est traité par Deleuze comme une production, mais non pas nécessairement toujours comme une production positive. Il peut y avoir des désirs qui sont des désirs pervertis, des désirs qui font porter sur un ordre social, comme par exemple le fascisme, le nazisme, de longues analyses, soit dans l'anti-Œdipe, soit dans Mille Platons, montrent qu'il y a au fond de l'ordre social du nazisme ou des régimes dits totalitaires, quelque chose comme le désir. Le pouvoir n'existe que parce qu'il se fait désirer. Mais ce qui ne veut pas dire que le pouvoir soit en dehors du désir. Ici, il faudrait confronter ce qu'ils ont fait eux-mêmes. D'ailleurs, Michel Foucault et Deleuze, Foucault considérant que ce qui est le premier donné, c'est le pouvoir, Deleuze considérant que toujours à la base du pouvoir, il y a le désir, donc primauté du désir dans un cas, primauté du pouvoir dans un autre, primauté dans un cas des... excusez-moi, j'ai mal pris ma voix, je l'ai trop montée. Primauté dans un cas de dispositifs de pouvoir, chez Foucault, primauté dans un autre, des agencements de désir dans le cadre de Deleuze. Ça peut être un objet, d'ailleurs, de questionnement et de discussion. Si j'avais eu quelque chose à boire, ça m'aurait arrangé. On le donne en général. Peut-être quelque chose pour celui qui parle. Comme j'ai mal pris ma voix, je me trouve... Ah, c'est ça, je me trouve avoir un chat dans la gorge, c'est absolument certain. Je voulais lire, à ce point de vue, Merci, vous êtes très gentil, très gentil. Je voulais lire ce petit texte de Deleuze dont je n'ai, que j'avais noté précisément dans un article de 1900, qui est tardif d'ailleurs, de 1977, je crois, où Deleuze précisait en quoi pour lui pouvait consister le désir. Pour moi, c'est ça. Pour moi, entendons également pour moi et pour Félix. Pour moi, désir ne comporte aucun manque. Ce n'est pas non plus une donnée naturelle. Il ne fait qu'un avec un agencement d'hétérogène. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ce n'est pas une donnée naturelle, cela veut dire que, disons dans un langage peut-être plus simple, que l'homme n'est jamais donné qu'avec les circonstances historiques qui l'entourent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un désir en soi, même un désir biologique qui correspondrait à une donnée naturelle, mais l'ensemble est toujours donné dans des modalités qui sont des agencements. Il est processus, c'est-à-dire mouvement, c'est-à-dire construction, c'est-à-dire variation également, malléabilité, contrairement à structure ou genèse. Il est affect, contrairement à sentiment. Là, Deleuze utilise des termes qui lui sont familiers, mais qu'il faut peut-être préciser. Le mot affect est emprunté à son étude sur Spinoza. Et il correspond à ce mouvement fondamental, à ce mouvement de l'être, qui n'est pas simplement dépendant de l'appréciation momentanée du sujet, de l'individu qui le ressent, mais qui est une pulsion interne. Chez Spinoza, correspond à ce qu'il appelle le conatus, c'est-à-dire le mouvement interne, le mouvement de persévération dans son propre être. C'est un mouvement vital, disons, que affect s'oppose chez Spinoza et chez Deleuze, dans son commentaire de Spinoza, à ce qui est l'apparition momentanée d'une modification affective ou affection. Il n'est pas dit, dans un langage qui est plus familier et qui sera peut-être davantage compris, disons que il faut distinguer le désir de l'envie passagère. C'est-à-dire le désir n'est pas simplement une envie, il est quelque chose qui affecte profondément l'individu, qui le pousse, qui le porte, et qui l'amène à agir, à mettre, à mobiliser ses forces, à se mettre en relation avec des objets, avec des instruments, etc. Donc, il y a dans le vocabulaire philosophique de Deleuze et de Guattari un sens fort qui peut être donné au désir et qui rend compte, d'ailleurs, à ce niveau-là, la terminologie de la psychanalyse lorsqu'elle parle d'une pulsion, ou en allemand lorsque Freud parle de ce qu'est le vœu, le Wunsch, ou alors le Trieb, c'est un état de pulsion. Donc il y a quelque chose qui fait que ce mot d'affect chez Deleuze est un terme qui est plus fort dans l'enracinement même de la de ce mouvement dans son importance que ce qu'il appelle une affection ou un sentiment. C'est ce qui explique qu'il puisse écrire il est processus contrairement à structure ou genèse, c'est-à-dire concernant à cet immobilisme de l'Œdipe, il est affect contrairement à sentiment. Il est excéité, là aussi mot spécifique de Deleuze, qu'il emprunte au vocabulaire médiéval de Duns Scott, qui signifie la singularité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas nécessairement une individualité, mais qui peut être, il le dit lui-même, une journée, une saison, une vie, ou une atmosphère, etc. C'est ça qu'il appelle des excéités, c'est-à-dire quelque chose qui est une singularité non autrement définissable, qui n'est pas simplement reliée à un sujet humain ou à une personne. Il est donc excéité contrairement à subjectivité. Il est événement contrairement à chose ou personne. Et surtout, il implique la constitution d'un champ d'immanence. Ce champ dont nous avons parlé, c'est-à-dire il y a désir au moment où précisément il y a rupture avec ces différences, ces différences d'être, ces différences objectives qui nous entourent, et au moment où il y a extension, étalement en quelque sorte de tout ce qu'il y a, de tout ce qui constitue notre expérience, notre donnée, sur un même plan d'équivalence d'être. Nous pouvons désirer tel et tel être, telle et telle chose. Il y a une équivalence entre les choses que l'on désire, et il y a ainsi l'explication de cette possibilité qu'a le désir de s'étendre à l'infini vers les choses les plus étranges, les plus inattendues, toutefois créer avec elles des agencements vitaux. Voilà les préliminaires de cette théorie du désir qui nous montre. Et c'est le point auquel je voulais en venir, que la conception du désir chez Deleuze et Guattari est une conception rigoureusement, j'emploie ici aussi un mot un peu étrange mais que l'on comprendra tout de suite, une conception externaliste. Externaliste, c'est-à-dire qu'elle fait passer à l'extérieur tout ce que nous avons tendance à replier sur l'intérieur, sur l'intimité, qu'elle fait passer en surface, surface d'extension, justement, de tout ce qui est le champ du désir, ce que l'on a l'habitude de loger en profondeur. C'est un point ou quelques points qui sont tout à fait importants dans la pensée, dans la philosophie de Deleuze, qui sont difficiles peut-être à expliciter d'une façon simple. Merci infiniment. Là, je suis comblé, mes désirs. Je dirais mes désirs même, vous allez au-delà de mes désirs. Et vous m'entourez d'une quantité d'objets avec lesquels je ne sais comment je vais procéder pour les liquider l'un après l'autre. Mais enfin, ça viendra. Mais cet externaliste est la caractéristique de tous les matérialismes. Deleuze s'est toujours caractérisé comme étant philosophiquement matérialiste. Qu'est-ce que c'est que le matérialisme? C'est précisément cela. C'est-à-dire une philosophie qui n'admet pas l'alibi, on pourrait dire, de l'intériorité, de l'intimité. Il faut que tout soit porté à l'extérieur et soit par là même explicité, rendu compréhensible par ce déploiement, ce dépliement de la chose qui apparaît comme étant repliée d'abord, fermée avec un intérieur, et on déploie et l'on s'aperçoit en définitive que cet intérieur n'était qu'un extérieur. C'est ça le principe même de la philosophie matérialiste, simplement la philosophie contemporaine, mais la philosophie matérialiste depuis les anciens, depuis l'atomisme d'Épicure et de Lucrèce, depuis les matérialistes du XVIIIe siècle, et les explications qu'ils ont pu donner de l'âme, du corps, des sentiments. Il n'y a pas d'intériorité, il n'y a qu'une extériorité. Le tout, c'est de savoir déployer cette intériorité apparente dans des relations qui sont des relations présentables sous une forme intelligible en surface. Le matérialisme, c'est des relations de surface. Le matérialisme, c'est une pensée qui fait en quelque sorte apparaître l'être, parce que tout à l'heure nous avions parlé de l'être dans cette univocité de l'être, mais même là il faut aller plus loin et dire que cet être dont on proclame l'univocité n'est rien de mystérieux, il est tout entier dans ses relations. L'être n'est qu'un ensemble de relations. Ce qui ne veut pas dire que par là, il soit impossible de parler un langage qui soit celui de l'intériorité, ou celui de l'âme, ou celui du sentiment, etc. Mais au niveau où l'on veut comprendre ce qui se passe, il est indispensable de comprendre comment ce sont les relations qui constituent l'être. C'est-à-dire que dans ce dépliement ou ce déploiement que l'on peut avoir du désir, on va trouver dans ce désir prétendument secret, précisément enfermé, on va trouver quelque chose qui apparaît tout entier, se déplie tout entier dans les relations qui constituent le désir, et pour employer les termes de la de l'anti-Œdipe, qui constituent ces agencements, qui constituent ces machines, désirantes, qui constituent les mouvements qui portent vers d'autres objets. Et je pense que peut-être cette pensée pourrait être parfaitement adaptable pour moi, je l'ai fait d'ailleurs, étant essentiellement intéressé par la philosophie, par la pensée de Charles Fourier, au système de Charles Fourier. Pour Charles Fourier, nous sommes constitués par des passions. Ces passions sont assez semblables à ce que Deleuze et Guattari considèrent comme des désirs. Ces passions ou désirs, d'ailleurs, Fourier utilisait également cette expression, l'immensité de nos désirs devant le peu de moyens que nous avons de les satisfaire, et tout son ordre social consiste à imaginer des combinaisons selon lesquelles ces désirs seraient satisfaits, ces passions connaîtraient leur plein essor. Or, les passions constituent l'être. Les passions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des attractions. Ce sont des attractions vers des objets. Ce sont donc des relations. Elles n'existent que dans les relations qu'elles ont avec des objets ou des êtres extérieurs, lorsqu'il s'agit des passions d'amour ou des objets d'utilité, objets de consommation.